les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Croire aux anges, il n'est pas nécessaire de croire aux anges quand ils font partie de votre langue. Il suffit de les articuler. Est angélique tout ce qui peut être important dans une vie sous forme de pensée ou d'émotion. À la croisée mystique de la folie et de la mort, une maladie qui servait sa poésie, le 5 avril 2001, Catherine Soulard faisait découvrir ou redécouvrir un poète et ses écrits testamentaires.
Surpris par la nuit.
L'univers créé est un temple, et Hiram, le grand architecte, s'identifie à son propre temple, son temple et son tombeau vide, son corps céleste, à jamais inanimé. Et pourtant, sa parole perdue et sa parole peut substituer, que l'on doit retrouver,
du numéro de la revue Sorgue qui lui est consacré, découverte, redécouverte de Christian Gabriel Guèze-Ricord, 1948, 1988.
Pour prier les anges, on prie les saints, mais le culte des anges ayant disparu, le corps d'Hiram est mort avec la perte du culte des anges. Autrefois, on pouvait prier les planètes, les différentes angéologies.
Une vierge noire, vous dites, non
Oui, parce qu'un ange noir, tout le monde sait. Enfin, je veux dire, ça a un côté diabolique, immédiat, comme ça, luciférien. Ce qui n'était pas le cas, je pense. Et c'est vrai qu'il a toujours voulu introduire une dimension féminine dans son nom. C'est assez étrange, ça. Il a toujours signé Gabriel en mettant un point entre le Gabriel et le Gabriel.
À la croisée mystique de la folie et de la mort, il faut se laisser faire et se laisser aller. Surtout ne pas raisonner. L'expérience de la traversée est la seule expérience. C'est une vie céleste, c'est une vie nocturne, celle d'un ange noir, diablement incarné.
Il aimait ça qu'on le prenne en photo ?
Fais-moi l'ange fier à la proue des premiers anges et des premières nuits, présence faite aux aubes écaillées par les neiges tardives, ô rêve qui ouvre le semblant de mourir et le semblant de croire en un seul geste.
Et tout être bâti sa géographie sacrée, même dans une ville, à travers certains cafés.
Voilà, j'ai retrouvé la signature, oui, gardée avec une croix et Lucifer. C'est une croix orthodoxe, non ? Non ?
Il s'agit d'entendre, d'écouter cette parole unique, traversée d'un flux de vision, cette parole éperdue, cet appel. L'expérience du poème est centrale. Elle est unité, convergence au sommet, prise de possession de l'invisible, intuition fulgurante. Il faut se laisser faire et se laisser aller.
Ses coups de téléphone, ils étaient intempestifs. C'était tout d'un coup, il appelait pour parler de quelque chose ou c'était...
Bah oui, non, mais on pourrait dire que tous les coups de téléphone sont intempestifs.
Il s'agit de la matière, il s'agit de
l'espérance.
Oui, pour vous.
Non, c'est vrai que... Non, il pouvait être assez fréquent. Puis, rentrer dans le silence pendant... Enfin, sans doute, je sais pas, j'ai pas...
Comment il se présentait quand il vous appelait ?
Mais d'abord, je reconnaissais sa voix immédiatement, oui. Je crois qu'en général, il avait des choses très, très précises à dire, comme ça, mais sur son... En quelque sorte, il poursuivait sa conversation. Mais peut-être que ce qui pouvait caractériser son appel, c'était d'entrer abruptement dans le sujet, je crois. Si vous voulez, sans Salamalek.
Élevé absolument, feuillage l'étoilé, parce qu'amour vainqueur...
Le naufrage est splendide,
or donc ce
dans les mots qui respirent,
c'est le théâtre du ciel, c'est la nuit, c'est une prière, une cérémonie, un orage, une précipitation. C'est un texte aussi et une présence. Écoutez-le, ce cri, et touchez cette blessure. Elle est bleue, elle est mauve de paroles intempestives. Il y a l'abîme et il y a la souffrance. Et il y a ces mots, le rythme de ces phrases, leur énigme. Laissez-vous happer, il n'y a qu'à écouter. Christian Gabriel Gaisricor. Je suis cet attentif au vent avenant, du seul passage en toi-même, de toi-même. Maintenant cet éternel, ce lieu où tu es la parole, moi-même enfin, moi-même en paradis.
Que je t'aime.
Comme ainsi soit que je t'aime.
Le jour même de son enterrement, j'ai reçu une lettre de lui. Il m'a écrit, sans doute juste avant de partir. Alors, est-ce qu'il est parti volontairement ou pas, on ne le saura jamais. Mais j'ai reçu le mercredi, alors qu'il était mort, soit le lundi soir, soit le mardi. Hein, tu te souviens, j'ai reçu le mercredi matin une lettre de lui. Et cette lettre était un véritable testament philosophique et religieux, qui était de nouveau un appel à la concorde entre les peuples, à la concorde entre tous les êtres humains. Vous voyez, ça a été le message de base. Mais ce message était en quelque sorte lancé de l'au-delà, puisqu'il se disait le médium, enfin l'intermédiaire entre le Seigneur et lui, enfin entre le Seigneur et nous plutôt. Il se disait le médiateur. Médiateur soit par rapport à la parole du Seigneur, il l'appelait ainsi, soit par rapport à la parole de Marie, car très souvent il parlait au nom de Marie. D'ailleurs chez lui, Dieu est peut-être, enfin Dieu peut se mettre au féminin, vous le savez, n'est-ce pas ? Et lui-même avait pris son deuxième prénom, le Gabriel, était féminisé au besoin, n'est-ce pas, pour faire sentir que l'androgyna primitif a été la première condition de l'être humain.
La lune étant le miroir du soleil est vue sur la terre d'une manière brisée. Il y a trois miroirs, il y a trois faces de la lune, avec la quatrième qui résume les trois premières, qui les réintègre en une.
C'est-à-dire l'image de la lune noire.
L'image de la lune noire. Et on trouve actuellement trois religions monothéistes, c'est-à-dire trois miroirs, trois écritures où se reflète le Verbe de Dieu. Il n'y a qu'un Verbe de Dieu. Mais pour revenir à cette question des trois miroirs de la lune, ou du miroir unique, l'esprit et l'âme, la lune étant l'âme, où se réfléchit la lumière solaire, on peut dire que Dieu a parlé par les prophètes. Dieu a parlé, mais il n'y a rien écrit. L'écriture de Dieu est brisée. Et c'est justement l'homme qui a écrit dans le miroir de son âme, dans le miroir lunaire de son âme, qui a écrit la parole de Dieu. D'où l'existence de trois écritures de Dieu, de trois saintes écritures, et d'une quatrième, qui est pour moi en quelque sorte la poésie, qui représenterait la lune noire, la lune absente, la poésie étant une parole de Dieu, mais une parole vierge du bien et du mal, vierge du vrai et du faux, alors que les trois écritures saintes, les trois écritures monothéistes, sont des écritures qui réfléchissent brutalement, qui réfléchissent la lumière du soleil, c'est-à-dire la lumière sur le bien et le mal, sur le vrai et le faux, sur le vrai et le laid. Alors que la quatrième écriture, qui représente l'ornement ou l'acacia des maçons des saintes écritures, ne réfléchit pas la lumière du Verbe de Dieu sur le bien et le mal, sur le vrai et le faux. Elle réfléchit la mort. Et peut-être que le poète est le seul à aimer la mort, à aimer la lune noire, la lune absente, c'est-à-dire le miroir éteint, le miroir de l'art des alchimistes, le miroir où se réfléchissent toutes les figures, mais le miroir éteint. Et c'est peut-être parce qu'il a le miroir éteint, le miroir mat, qu'il peut se situer en dehors du conflit, qu'il peut réfléchir dans sa propre âme qui est noire, le soleil noir de la mélancolie, disait Nerval, qui peut réfléchir que les trois religions monothéistes ne sont que trois faces, trois lettres d'une même parole, et que la lune est une vue du soleil, mais vue de la terre, elle est triple. C'est pour ça que Jérusalem, qui est l'épouse de Dieu, est une vue de Dieu et triple vue de la terre.
C'est la Madeleine à la veilleuse de Georges de la Tour. Et j'avais quelques identifications avec ce personnage qui, d'après la légende, aurait fini ses jours à la Sainte-Baume, la grotte de la Sainte-Baume.
Tu faillis vous dire comme ça, elle vous ressemble.
Oui. Et un jour, d'ailleurs, j'ai montré cette carte à ma mère qui m'a dit, mais comment tu étais habillée ce jour-là ?
Il y a la bougie, la tête de mort.
Oui, le crâne qui représente le Golgotha. Quelle... Il a sa main posée dans un geste très protecteur.
Et elle a abandonné là. C'est une carte qu'il vous avait envoyée ?
Oui. Oui. Et il y en a une autre où il me disait « Ton visage a déjà été prophétisé. » C'était beau. D'ailleurs, il m'appelait Mirafort. Il y avait une homophonie avec mon prénom, mais aussi parce que la Mirafort, c'est la porteuse de parfum
de Mireille, oui.
Qui a donc répandu son art sur les pieds du Christ.
Vous connaissez la Bible par cœur,
Christian ?
Oui.
Oui, pas seulement la Bible.
La Bible, le Coran ?
Le Coran,
oui.
Et d'ailleurs, il y a une lettre très belle où il me dit qu'il est une de ses nombreuses nuits de veille. Il écoutait Radio Alger, le chant du muezzin qui appelle à la prière. Et il disait qu'il ne comprenait pas le sens, enfin, il ne comprenait pas les paroles, mais il comprenait le sens, justement, à travers la forme. Mm. Et c'est un peu aussi ce qu'on retrouve dans ses dessins. Où il dessinait des lettres qu'il tressait.
Il passait son temps à lire ?
Il lisait beaucoup, mais la lecture était souvent un prétexte à l'écriture, un prétexte. Il disait que souvent il était obligé d'abandonner sa lecture parce que ça lui donnait envie d'écrire.
août 1981. Gabriel, tes ailes sont trop grandes pour le monde étroit où tu es descendu. Je te vois les écorchant au mur d'une ville grise. De ton sang naissent des étoiles, mais nul ne les voit. Portes et fenêtres restent fermées, et toi tu te débats pour te poser sans trop de mal sur un sol qui va te blesser. Où trouveras-tu asile ? Point de maison pour t'accueillir. Soudain, de très loin, une lumière vacillante t'appelle. Là, chez elle, tu vas pouvoir te reposer. Et tu ne devras pas laisser tes ailes au vestiaire. Elle te prendra tout entier, comme un enfant dont on accepte tout. Ne te laisse pas tailler aux dimensions d'un monde qui régit, ordonne et classe. Si l'on ne veut pas entrer dans ton jeu, c'est que celui qui entre dans le jeu s'y prend fatalement. Et si l'on parle de ta folie, c'est que ta folie interroge. On éloigne que ce qui fait peur. Baiser, Marie, Remiel, c'est vous ça, Mireille, ma mini. C'est vous qui avez écrit ce magnifique texte.
Oui.
Ah.
C'était une lettre vraiment adressée. Et Remiel, c'est l'anagramme de Mireille, mais c'est aussi un nom d'ange. Puisque Christian avait l'habitude d'attribuer des noms d'anges à tous ses amis, à tous ses proches.
Vous avez vécu, vous, Mireille Mamini, une dizaine d'années avec Christian Gabriel Guez-Ricord.
J'ai vécu 6 ans avec lui. Et ensuite, nous avons été amis encore pendant 2 années, jusqu'à sa mort. Il a vécu ses 2 dernières années, donc dans une petite rue, proche d'ici.
Il a vécu ici avec vous ?
Il a vécu les 6 années, Enfin, on a eu plusieurs lieux aussi. Hein. Il y a eu Lourmarin, où il a vécu seul pendant un an, et où j'allais le retrouver le week-end et le soir, de temps en temps. Ensuite, nous avons vécu boulevard Vauban, dans la maison où je suis née. Donc c'était un retour. C'était pas le même appartement, mais c'était la même maison. Et puis ensuite ici, boulevard Notre-Dame, au coin de la rue du Dragon. Il choisissait souvent ses lieux d'habitation par rapport
au nom.
C'était très important.
Mireille, d'ailleurs, c'est Marie ?
Marie, oui.
Il avait toute une géographie sacrée, hein,
c'est ça,
des lieux.
C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, des noms de rues, des cafés qu'il arpentait. Il y avait toujours ici, il y avait le bar des ascenseurs de la Vierge Marie, parce que ici autrefois, il y avait un funiculaire qui permettait de monter à la Vierge de la Garde. Et il y a un bar qui a gardé ce nom. Donc il y allait souvent pour écrire, parce qu'il écrivait, quand il fallait écrire, c'était... Ça pouvait être n'importe où, dans le bruit, sur un coin de table, n'importe où.
La nuit est créatrice. La nuit, c'est la fille du jour et la mère du jour. Et dans une image matriarcale, c'est la nuit qui crée le jour. C'est l'absence de verbe qui crée le verbe. C'est la nuit qui inspire, c'est la nuit la grande inspiratrice. On parle du grand architecte de l'univers. Il faudrait parler aussi de la grande inspiratrice, Isis la Noire, la nuit qui inspire l'ordre, qui inspire le Verbe de Dieu, qui le fait venir, qui l'accouche en quelque sorte. Donc la nuit, pour moi, c'est le lieu de tous les possibles. C'est dans la nuit qu'est le lieu de la pérennité, c'est dans le lieu de la demeure d'éternité, de cette nef d'éternité dont parlait la religion égyptienne, qu'on retrouve dans l'image de la Vierge, qui est la nef, qui est l'arche. C'est ce voyage à travers la nuit de tous les possibles, de toutes les existences que nous portons en nous. C'est ce passage initiatique à travers la nuit jusqu'au jour. Mais la nuit est aussi la fille du jour. Nous n'avons pas idée des univers possibles. Les auteurs de science-fiction parleraient des univers parallèles. Si vous avez la perception pour voir les attributs de Dieu sur les visages que vous croisez dans le métro, vous allez voir l'espérance, le travail, la force, l'amour, l'amitié, ou alors vous allez voir l'orgueil, la vanité, la paresse, la luxure. Les royaumes cohabitent, ils sont coprésents parmi nous, mais ils se séparent avec la mort. La mort est le lieu de cette séparation, de cette assomption des choses. Mais cette assomption est irréversible, le mouvement d'ascension, et en cela, en tant que poète, je prêcherai contre Dante qui disait que dans les enfers, il n'y avait plus d'espoir. Oui, il y a un espoir dans les enfers, c'est que le mouvement d'ascension est irréversible, c'est que le Christ, à chaque messe, descend aux enfers et sauve ceux dont les noms lui sont soufflés par le Saint-Esprit. À chaque messe, le Christ va 3 jours en enfer et remonte avec certaines âmes, parce que le mouvement d'ascension, pour reprendre une image de Teilhard de Chardin, est irréversible. Tout va vers un plus, vers un oméga. Tout ce qui arrive sur cette terre est là pour augmenter l'amour.
Au commencement fut créée la fin. Soudain, une odeur de mur. À chacun son corps. Maintenant est mon ciel, aime ce qui vient d'en bas, être n'a pas de mesure, la mort passe. Mon nom est l'os du labyrinthe. Où va le temps? Nier le temps. L'œil ferme la fenêtre et je pense à toi, ombre qui fait nom. C'est un poème de vous, Bernard Noël, que vous avez dédié à Christian Gabriel Gaez-Ricord, qui s'intitule « Stèle pour Samaël ».
J'avais oublié ce poème. Mais la stèle, je peux vous donner la circonstance simplement, c'est que Samaël est le nom d'un ange, et c'est le nom que m'avait donné Christian.
Il voulait que vous écriviez des stèles et des oracles, et vous aviez répondu que c'était pas très...
Non, mais je lui ai toujours dit oui.
Oui.
Mais sans jamais passer à l'acte, parce que, enfin, ce qui était oraculaire lui était, me semblait-il, réservé, parce que il faut une sacrée innocence, au fond, pour prononcer des oracles. Et je pense que lui l'avait. Enfin, peut-être que l'innocence, on peut s'en emparer, si on l'a pas. Et que... C'est peut-être ce qu'il avait fait par son comportement général, qui, aux yeux de la plupart, était aberrant, à mes propres yeux d'ailleurs, a été longtemps semblé aberrant. Et puis, est entré dans une espèce de naturel second. Parce qu'il l'assumait tout le temps, je crois. Alors, sur la fréquentation de Christian, c'était à la fois très éprouvant. Enfin, par période, c'était très éprouvant, et par moment, c'était très exaltant. Et c'était exaltant parce que... Un grand, je sais pas quel mot employer, mais un grand amour au fond pour Gérard de Nerval, pour Artaud, mais qui sont des gens lointains, éloignés par la mort, enfin l'un parce qu'il est vraiment loin au 19e qui est Nerval, l'autre parce qu'il est mort depuis longtemps, je ne l'ai pas connu. Alors ce qui était étrange, c'est que si vous voulez, Christian rendait naturel le délire des deux autres, qu'il recoupait complètement. Enfin, si je pense au début d'Aurélia, par exemple, à la rencontre de l'étoile, au fond. Mm. Et il faut aussi une sacrée innocence pour suivre une étoile. Et je pense que lui pouvait... Si vous voulez, moi, je ne pourrais pas suivre une étoile... Sans jouer un jeu qui ne me conviendrait pas, d'ailleurs. C'est-à-dire, je ne serais pas capable de cet abandon. Alors que lui, justement, en était capable par une espèce de... Parce qu'il avait traversé les miroirs, si je puis dire. Alors, à quel moment l'a-t-il traversé, j'en sais rien. Parce que je l'ai connu que vers 1975, je pense, après la publication de son premier livre. Comment s'est-on connu, je ne m'en rappelle pas non plus. Sans doute à Marseille. Et j'ai le souvenir plutôt de promenade. Plutôt que de conversation, bien qu'il y ait eu beaucoup de paroles, enfin de son côté. Et que, justement, ces paroles mêlées, quand tout allait bien, disons que ces paroles mêlées avec un naturel très grand, aussi bien les thèmes qui sont courants chez Nerval et chez Artaud, de mystique, de dédoublement, de manifestation du destin, mais en clair. Enfin, c'était comme si le destin n'était pas une espèce de grand mot planant, enfin, ou d'univers supérieur, comme ça, qui plane au loin, avec de temps en temps des manifestations brutales, mais comme s'il était la nuée dans laquelle... qu'il transportait avec lui, en quelque sorte, comme une grande bulle. Et par contre, il y avait des jours où ça allait plus mal et où il était un peu comme un disque rayé, avec le retour des mêmes paroles d'ailleurs, comme ça, avec un sillon qui se rétrécissait.
L'expérience de la traversée est la seule expérience. 2. Dans le golfe de Gênes, vers la fin de la nuit, alors que la lune change de rive et qu'il n'y a plus de vent, je comprends le lieu vierge, le lieu où absence et présence s'estompent, et le souffle devient vertu dans la barre qui l'affirme, et le cri qui signifie. 3. San Fruttuoso di Camogli. La route de nul vent se tait pour que la terre ne soit que maintenant parole,
au secret et que sa lente autre que l'ange laisse à mon visage la brume
lumière s'avance aux amers de tel.
Et j'y prends lieu
comme la profondeur même de l'eau, cette traversée de mon rêve dans la crique, ce passage silencieux
parmi les pierres,
il me vient ce ruissellement qui ne lave pas, et pour une autre eau je fais voile et disparais. Une eau qui lavera tout, n'enlevant rien.
On a parfois des difficultés pour entrer dans son œuvre écrite. Ça n'est pas évident. Mais lorsqu'on l'entendait dire ses poèmes, on était absolument captivé. Et on savait qu'il était dans la vérité de son art. Oui. Voilà. Et je crois que tout le travail critique qu'il faut faire maintenant pour retrouver son œuvre, pour la relire, pour faire que d'autres aillent à la rencontre de cette œuvre, c'est un travail aussi pour retrouver sa voix, pour tâcher de convaincre les lecteurs qu'il y a un certain mode de lecture qui rend ses poèmes parfois difficiles, évidents. Voilà ce que...
Vous, la voix, vous l'entendez quand vous le lisez?
Oui, j'entends sa voix, mais je n'ai pas tout entendu de sa voix.
C'est une question de quoi? De rythme?
C'est une question de chaleur, je dirais, de conviction profonde, de rythme aussi, oui. C'était un... il y avait de la psalmodie, me semble-t-il, lorsqu'il disait ses poèmes. Ses poèmes n'étaient... Il ne les chantait pas, mais... ces poèmes étaient élevés par sa propre parole au niveau du sacré. Et donc, il y avait cette conjonction chez lui entre une écriture qui visait, n'est-ce pas, à parler de quelque chose de sacral et une parole qui se haussait au niveau des versets bibliques, si vous voulez, et qui atteignait à ce moment-là une température de fusion telle que le public était vraiment sous le charme.
Moi, j'ose pas. J'ose pas. C'est le carton de photos.
Oui. Il y a des photos d'un peu toutes les époques. Celle-là, il était très jeune.
Chez Mella?
Oui. Là, je pense que c'est...
Elle est drôle, celle-là.
À la Villa Médicis.
Oui.
Il était très jeune.
C'est le regard, non?
Oui. Regard ardent. Un visage très, très émacié.
Un grand nez.
Oui, un profil de médaille.
Oh, c'est une photo de classe, ça?
Oui.
Je peux la regarder?
Oui, allez-y.
Il est où?
Il est là. C'est très étonnant, parce que sur les photos d'enfance, on dirait qu'il est clair de cheveux.
Mm.
Pas sur celle-là, mais il y en a d'autres, alors qu'il était vraiment très, très brun.
Et là, il a un visage gai, non?
Oui.
Il a l'air content, là.
Oui.
Et ça, c'était à Marseille ou à Paris, ça?
C'était C'était à Marseille, je pense.
Oui, il a été à Paris.
58.
Oui. 58, donc il avait 10 ans.
Oui. Hein? Juste. Ouais.
On l'a décrit souvent avec une grande cape noire, des bagues.
Oui.
Comme un mage noir.
D'ailleurs, là, hein? Là, oui, là on voit la cape.
Voilà.
Il est très romantiquement drapé dans sa cape.
Et là, il a le regard presque malicieux.
Oui. Hein?
C'est vous qui avez pris la photo ? Je pense à Christian Gabriel Guèze-Ricord comme à un témoin de l'essentiel. Ce que je dis là serait banalité s'il ne s'agissait que d'une formule habilitée à seulement classer et classifier en toute urgence littéraire une œuvre faite, accomplie et refermée sur sa réalisation. Mais justement, l'œuvre dont il s'agit n'est pas que de l'ordre littéraire et ne saurait se limiter à rien qu'un épanouissement verbal, si magnifique soit-il. Et souvent, chez ce poète, l'épanouissement est là, et telle formulation en majesté qui peut faire illusion. Va-t-on s'arrêter, saisi d'éblouissement devant la qualité de la langue et dérivé par sympathie d'écoute vers de remarquables aménagements verbaux ou rythmiques, vers de savantes orchestrations, en qui l'oreille en vient assez vite à reconnaître quelques-unes de ses absences? Oui, la tentation serait grande d'aimer en Guèze-Ricord la beauté complexe et profuse d'un texte dont les tenants et les aboutissants retrouvent en nous, ainsi que nappe phréatique, l'étendue de notre légende rêvée, consentie par nous en tant que légende et reprise en notre langue, en tant que rêve. Salas Tétier.
Il donnait l'impression de quelque chose de noir, mais en même temps, d'un noir lumineux. Je pense maintenant que le noir qui distinguait Guèze-Ricord ressemblait à ce noir dont parle Delacroix dans son journal. Delacroix dit dans son journal « Il y a en moi quelque chose de noir à contenter. » N'est-ce pas ? Donc, le noir d'une immense faim, le noir d'une sorte d'abîme, d'une sorte de gouffre, on le sentait. Il était noir parce qu'il était brun, parce qu'il avait des cheveux noirs. Ça se portait assez long à l'époque, nous sommes dans les années 70, mais je veux dire, on aurait été dans un règne de cheveux courts qu'il aurait porté les cheveux longs, parce qu'il y avait en lui une sorte de refus manifeste du jeu social. Il avait un regard, j'ai dit d'aigle,
oui.
Non, pas d'aigle, un regard un peu traqué. C'était un homme traqué, et peut-être un regard de daim ou de cerf, dans une cérémonie comme l'est la chasse à cour, n'est-ce pas ? Il était probablement poursuivi par une mystérieuse chasse à cour. Il y avait des chiens silencieux autour de lui. Il avait une cape noire, ce nez busqué, donc l'aigle et le cerf en même temps. Et il avait les mains couvertes d'énormes bagues qui étaient de mystérieuses alliances, au sens ordinaire du mot, mais aussi, probablement, j'y ai pensé depuis, au sens symbolique du terme. C'était un homme qui, dans sa dispersion, et dans sa quête de l'unité, chercher des points d'alliance, des possibilités d'alliance. Et ces alliances, qui n'étaient pas de simples anneaux comme ceux des conjoints était en réalité pour lui probablement le symbole de sa volonté de retenir et d'être retenu par tous ceux qui pouvaient l'aider à se maintenir, à se simplifier, à aller vers la vérité des choses et vers la vérité de l'être.
Quelques autres fragments situés la forme littéraire que constitue la prière. Notamment
ce dont il parle, il le convoque, et c'est très présent. Enfin, qu'il parle de la Vierge Marie, des saints ou des anges. Et moi, ce qui m'a d'ailleurs le plus. Ce que je raconte, je vois que vous avez le numéro de Sorgue. Ce qui m'a frappé un jour, c'est à quel point il m'a. Si vous voulez, pendant longtemps, cette histoire d'ange, c'était pour moi une espèce de métaphore, l'ange. Bon, qui est. Enfin, je ne crois pas aux anges, si je puis dire, alors que lui semblait y croire. Je ne sais pas s'il y croyait ou s'il. Si vous voulez, il n'est pas nécessaire de croire aux anges quand on en a fait un. Quand ils font partie de votre langue, en quelque sorte. Il suffit de les articuler, hein, au fond. Et je me suis rendu compte un jour, je vivais à cette époque-là à la Chartreuse, de Villeneuve-les-Avignon, donc dans un certain retrait, où il me téléphonait assez souvent, où on s'y rencontrait aussi parfois. Et je me suis rendu compte qu'au fond était angélique tout ce qui. Tout ce qui m'importait dans ma propre vie, et qui s'y présentait soit sous forme de pensée, soit sous forme de. Non pas de savoir, surtout pas de savoir, mais si vous voulez, sous forme d'émotion au fond. C'est-à-dire qu'il y a des choses. Il y a des savoirs qui se transforment en émotions et qui deviennent de la vie. Et que soit ces pensées émues, si je puis dire, leur accumulation produisait une sorte de dégagement. Et que ce dégagement, en quelque sorte, prenait un corps angélique. En s'élevant comme ça. C'était pas seulement. Donc ça n'était pas quelque chose qui allait habiter la mémoire, mais qui allait habiter une espèce de réserve supérieure, au fond. Je sais pas comment. Ceux qui croient au ciel, c'est pas mon cas. Mais je pense qu'il y a des régions aériennes. Moi, le mot aérien est quelque chose qui me convient assez bien pour désigner ce qui s'évade de nous, mais qui ne disparaît pas nécessairement. Je veux dire que ce qui s'évade, c'est aussi nos paroles qui s'évadent de nous, mais elles sont faites d'un élément aérien qui, en s'élevant, subsiste peut-être, circule, forme des corps plus ou moins invisibles. Bon, ça, c'était la sorte d'ange à laquelle sa parole à lui me rendait sensible, parce que j'avais besoin qu'elle produise quelque chose de corporel au fond. Peut-être justement parce que sa puissance corporelle m'a frappé à partir d'un certain moment. Mais ce que j'ai essayé de dire dans ce texte, mais sans que je puisse la situer avec exactitude, mais si vous voulez, à partir de ce moment-là, il y a eu, pour moi, il a été quelqu'un de très violemment incarné, et non pas de délirant. Enfin, son délire était un délire charnel plutôt qu'un délire malade ou délirant, enfin ce qu'on entend par là.
Vous dites ça, oui. Qu'il était très présent charnellement.
Oui. Mais ça reste. si vous voulez, ce personnage, enfin cet homme noir. C'était aussi un homme noir, bizarrement, enfin dans sa façon de se vêtir, mais aussi dans, enfin avec sa grande chevelure et son...
Et ses cheveux.
Et son visage perdu dans cette chevelure.
J'avais été très frappé par les lettres que m'écrivait Gaz-Ricor, qui étaient des lettres à la fois autoritaires et déchirées. Les lettres de quelqu'un d'un peu éperdu, mais aussi de quelqu'un qui avait un regard des peines et des serres d'aigle, l'aigle de Saint-Jean, si vous voulez. Il aurait, je pense, aimé cette image. Être comparé à l'aigle de Saint-Jean me paraît être une image qui peut rendre compte du destin spirituel de Gaz-Ricor.
Même physiquement ?
Même physiquement.
Le nom, Vierge, mort, oui. L'ange, la croix, l'épée, la nuit, l'étoile, le chemin, l'alliance, le vœu, le pacte, l'adresse, l'anneau, la fontaine, le puits et la couleur bleue qui revient très souvent aussi.
Oui. Ce sont des mots, comme vous simples. Le constatez, à la fois simples et nobles, n'est-ce pas ? Ils disent une espèce de... ils disent à la fois le visible immédiat et ce qui dans le visible est traversé d'invisible. Le puits, par exemple. L'anneau, n'est-ce pas, qui est du plein autour d'un vide. L'ange qui est une concrétion ou une concrétisation d'un certain nombre de légèretés créatrices qui nous traversent. Il y a un propos de Mohammed, le prophète de l'islam, je l'évoque ici en mémoire de Gaz-Ricor, un propos que j'aime beaucoup, un hadith. Un hadith, ça veut dire justement un propos sacré. Ouais. Et le prophète de l'islam avait l'habitude de demander à ses compagnons de ne pas marcher derrière lui. Et il leur disait « Laissez mon dos aux anges. » Aux anges, c'est-à-dire à cette espèce de poussée, n'est-ce pas, noire, de poussée obscure qui conduisait sa propre démarche.
À chaque visite, je suis comblée, meurtrie, cherchant à reprendre l'air de la rue sans rien perdre de la fumée que tu m'as fait traverser. Dominique Sorrente, c'est vous qui écrivez ça. Vous aviez 17 ans, 1970, quand vous avez connu Christian Gaz-Ricor, qui avait 5 ans de plus que vous.
Oui.
Et c'est à lui que vous dites ça.
Tout à fait. C'est vrai, Christian, c'est certainement là... première et décisive rencontre que j'ai faite en poésie. Et j'ai repensé il n'y a pas longtemps à cette première rencontre avec Christian. Et il y avait une lampe. Et il m'a tout de suite parlé de la lampe de Nerval. Et les choses se passaient un peu comme cela avec lui. On entrait dans un monde et puis on ouvrait une porte et une nouvelle chose apparaissait. Mais c'est cette première rencontre, j'en ai un souvenir précis et profond. Cette maison, cet appartement de sa mère était situé de telle façon qu'on voyait d'un côté le stade, Vélodrome, et de l'autre côté la Vierge de la Garde. Et là, il y avait une sorte d'équilibre qui se faisait, la poésie se trouvait entre ces deux espaces.
C'était la nuit ?
Non, ce n'était pas la nuit, mais lorsque je suis parti, c'était la nuit... Et je crois bien qu'il y avait beaucoup de nuits dans le moment que nous avons traversé ensemble. Je suis sorti, comme souvent plus tard avec Christian, dans un état, je crois que beaucoup de ses amis pourraient dire cela, de jubilation et d'exténuement. Je crois qu'on ne pouvait pas rester très longtemps avec Christian, tellement beaucoup de choses se passaient. Un moment très fort.
Vous dites d'ailleurs dans le texte que vous écrivez dans la revue Sorgue sur Christian Guézricourt, Dominique Sorrente, vous parlez de ses propos incendiaires ou dévastés, de tous ses bivouacs en perdition.
Oui. Chez Christian, il y avait toujours cette idée que, d'une part, la parole ne s'arrêtait pas, n'avait pas de raison de s'arrêter, et elle avait besoin de se prolonger, et qu'en même temps, il y avait des moments de posture, des moments où des choses pouvaient se manifester. Donc, on avançait, c'était comme un bivouac, et puis forcément, la réalité se dérobait, il fallait repartir. Donc, incessamment, on faisait ce passage, en sachant qu'il n'y avait pas de véritable retour possible. On allait d'un endroit à l'autre, et je crois qu'on recevait de sortes d'éclats de poésie à chaque fois.
Je n'ai pas de rapport critique avec les livres. Je mange Rimbaud comme je mange le Christ à la messe. Je me moque pas mal du rapport critique avec son œuvre. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce qu'a écrit Rimbaud, c'est ce qu'il fait aujourd'hui, en 1977, car je crois à la vie éternelle, à la lettre. C'est peut-être le souvenir du sang en moi, je ne sais pas. Mais c'est à la lettre et dans tous les sens que je veux aller à Rome, parce que c'est aussi la porte réelle de l'autre monde. Que dans l'autre monde, je retrouverai Rome, transfiguré. Je crois à la résurrection de la matière. J'ai écrit là-dessus. C'est la Vierge, le dogme de l'Assomption. Je l'ai lu à la lettre. Et Rimbaud, quand il dit « Je me crois en enfer, donc j'y suis », procède par théophanie comme Mahomet quand il dit « Ce jeune arabe, c'est Gabriel ». En fait, le jeune arabe, ses voisins voient bien que ce n'est pas Gabriel, que c'est un jeune arabe. Mais Mahomet fait venir théophaniquement la parole de Gabriel. Et ça, c'est le discours psychanalytique qui nous l'apprend. Mais le discours psychanalytique nous a défini le diable en nous ramenant tout au désir, qui est un principe du désir. Mais il ne voit que la reconstruction du langage dans sa lettre par rapport à ce prince du désir. Mais bien avant lui, il y a eu une psychanalyse de l'en haut, de la reconstruction du désir de Dieu, du refoulement de Dieu. En quoi Dieu dérange cet homme dans le langage? Saint Ignace de Loyola parlait du lapsus du Saint-Esprit. Et Mahomet, quand il reconstruit dans la parole d'un jeune arabe le langage de l'ange Gabriel, ne fait rien d'autre que la même chose que le psychanalyste quand il reconstruit le désir de son patient, que le patient n'est pas conscient, le jeune arabe ne savait pas qu'on prenait en lui la parole de Gabriel. Donc il y a beaucoup de choses que le poète découvre parfois à ses propres risques. Et ensuite, il n'a plus envie de parler de la poésie. Il parle poétiquement de ce qui l'entoure, mais il ne distingue plus poésie, musique, mathématiques, philosophie. Il est comme l'enfant qui ne distingue pas encore les catégories. Nous allons vers la réunification de la parole et pas vers la division. Pour moi, la musique est comme la mathématique, et comme la poésie, et comme la philosophie, et comme la théologie. Mais ce comme qui maintient une distance et qui empêche les syncrétismes, n'implique en rien que la finalité de la théologie, de la mathématique, de la musique ne soit pas la même. Les droites sont peut-être parallèles, mais pour moi elles sont convergentes. La musique, la fin de la musique est la même que la mathématique, que la poésie, que la théologie, j'allais dire même que l'histoire, qui n'est qu'une prière.
C'est vrai, il téléphonait assez souvent. Alors je ne sais pas si c'est un mode de relation qui... Moi, j'aime pas beaucoup le téléphone, qui irréalise. Mais dans son cas, où le langage avait... où l'expression à travers les mots avait à la fois une grande force et une espèce de naturel dans le récit, si vous voulez, le téléphone, ça convenait assez bien pour donner de ses nouvelles. Bon. J'ai reçu aussi beaucoup de lettres de lui. Elles sont, je crois, beaucoup plus intéressantes par la graphie, par la quantité de petits dessins qui les accompagnent, que par ce qu'elles disent, enfin, il me semble. Et à partir des années 80, sais plus très bien, 84, 85. J'ai reçu aussi beaucoup de peintures. Alors, ces peintures recoupent ces obsessions de la Vierge Marie, les anges, côté à la fois rituel, sacrifice, etc. Mais alors, l'étrange est que je m'en suis aperçu au fond aussi avec ce numéro de Sorgue, où il n'y en a pas d'ailleurs tellement, mais ça constitue peu à peu une espèce de langage parallèle fait de signes très...
Tiens, vous voulez les regarder ?
Qui sont des signes très, très répétitifs.
Il y en a des belles et toujours un peu les mêmes couleurs, le bleu.
Oui. Ça, c'est assez juste, ce genre de tableau dans lequel figure une sorte de prisme à l'intérieur duquel on aperçoit des signes et une construction plus ou moins géométrique. Enfin, c'est un côté icône un peu. Ça. Mais les plus fréquents sont ce genre d'images où on voit quelque chose comme un autel flanqué d'anges, enfin qui ont une attitude assez dansante comme ça, ou bien ce qu'on retrouve là, ici. Oui. Celui-là est plus rare au fond, parce qu'avec cette espèce de lyre posée sur je sais pas quoi, enfin, ça a l'air oui. d'une crèche un peu dominée de l'étoile, le quartier de lune.
Chez Gaizricor, quand même, essayons de donner des pistes. Il y a tout un théâtre du ciel, il y a la nuit, il y a les anges, il y a beaucoup de mots qui reviennent, il y a toute une mystique des trois religions, du livre.
Oui, tous ces aspects peuvent être chacun... une clé, si on peut dire, d'entrée dans l'œuvre.
Bien entendu,
qui effectivement sous-tend toute la trajectoire de l'œuvre. Je réfléchissais à ça ce matin. La perspective de la mort dans l'œuvre de Guèze ou dans l'œuvre en général. Enfin, dans ce qui motive une œuvre poétique en particulier. Je crois que la perspective de la mort, c'est quelque part la certitude de retourner au destin commun. Mourir, c'est rejoindre la communauté humaine dont l'émotion et même le traumatisme initial de l'œuvre nous a séparés. Et je crois que vous appelez des clés, sont en fait la zone émotive à partir de laquelle vous vous sentez en intimité et où vous faites vous-même corps, en solidarité, où il y a adhésion avec le texte lui-même. Et effectivement, les accès peuvent être à ce moment-là très, très différents. Dans la Monnaie des Morts, une conversation s'amorce entre l'amandier, le chemin, la fontaine, l'ange aussi.
Vous étiez quel ange pour lui ? Il vous avait baptisé ?
Oui.
Bernard Mialet.
Diversement. Je ne sais pas. Je pense que j'étais quelqu'un de très sécurisant. Donc un ange gardien.
Au départ, il y a eu la lecture de Pierre écrite en 65.
Oui, tout à fait. Guèze lit Pierre écrite au cours de l'été 66. Il avait lu très très peu de choses, pour ainsi dire rien, auparavant. Il a surtout été, comment dire, dirigé vers l'œuvre d'Yves Bonnefoy par son entourage immédiat et je pense en particulier par Jean-Paul Guibert, qui lui était déjà en relation avec Bonnefoy et qui très certainement a été l'intermédiaire pour Guèze-Ricord. Les premières influences déterminantes avant Bonnefoy, dont il ne connaît pas l'œuvre avant 66, dans les années de formation, les années d'adolescence, il y a Camus, bien sûr. Il y a bien sûr Camus, le Camus des essais, de ce qu'on appelle les essais, le Camus de l'été, de noces, qui ne sera pas sans rapport aussi avec le rapprochement avec Bonnefoy. Je pense qu'on peut... Dans les proses de l'après-guerre, enfin dans une certaine façon d'aborder l'essai en prose, le voyage intime en prose, on peut rapprocher des textes comme L'été de Camus et L'arrière-pays d'Yves Bonnefoy, par exemple.
Fais-moi l'ange fier à la proue des premiers anges et des premières nuits. Présence faite aux aubes écaillées par les neiges tardives. Ô rêve qui ouvre le semblant de mourir et le semblant de croire en un seul geste, geste clos sur toi, dans son grand délire froid, toi la seule, tôt venue, aux mains vouées à la cendre de deux enfants morts, bleus et noirs. Cet hiver, comme l'ivoire, le lieu de terre grise, est donné, ouvert, aux violences de ta venue, ô la plus folle que désira le cri pour le cri même, et pleurer, aux faces délitées, offertes dans ta mort au Dieu des airs, élevées pour l'aube, jugeant l'aube, et sans cesse riant au jeu du nom. Or tu espères, étant morte jadis, rêver sans borne avec ferveur. L'arche grise et verte de ton nom, la mer lourde de toi-même, criant, celui qui n'est pas né aura vertu de songe et de toi-même, attendu, retrouvera ici même la parole pour l'ultime damnation. Ayant cette expression de l'aile au levant, dont tout ange se sait venir, amour et langage, et pour la lente création
la pièce
de l'un jusqu'à l'autre.
Et le habité fer encore était par Christian, non de nos deux
oui, corps, hein. Dans cette air écrit vainqueur, que fut toi-même. Il dessinait, il peignait, il écrivait. C'était des activités différentes selon ses états mentaux, je dirais. L'écriture, c'était souvent dans l'urgence, dans des états d'angoisse très forts. Il disait qu'il vivait de manière testamentaire. C'est-à-dire, il fallait écrire, il fallait terminer un texte, passer une nuit pour terminer un texte, parce qu'on ne savait pas si le lendemain on allait être encore là. Donc il avait l'habitude de veiller très tard la nuit.
Il écrivait là, sur cette table, ou sur ses genoux, ou comment ?
Il écrivait, il a écrit sur cette table, il a écrit aussi sur le bureau que lui avait légué le poète Jean Malrieux, qui était instituteur, c'était son bureau d'instituteur. Il a beaucoup écrit aussi sur ce bureau.
Vous avez gardé beaucoup de lettres de lui ?
Oui, j'en ai là, à côté de moi. ...1982, c'est une époque où je partais en vacances avec mes enfants dans les Alpes de Haute-Provence et où lui restait à Marseille. C'était une époque un peu difficile. Et donc je recevais beaucoup de lettres. 17-18 août... je peux la lire. 17-18 août, on va dire 1982, à la nuit. Marie-Mireille, quelle sera notre histoire, nous qui ne méprisons pas le légendaire, et pourquoi refuserions-nous l'aura d'un mythe qui a parcouru l'histoire, celui de l'ange? Il m'arrive de considérer l'ange avec gravité, d'être rappelé au semblant d'une responsabilité propre. Et toi, Rémiel, est-il une manière de m'accompagner dans la vie, ou ressens-tu l'appel de l'irrationnel sans lequel il n'y a pas de poésie ? praticable.
Je suis comme l'enfant, j'imite les objets du monde, et je m'en sers, et je bricole. Mais ce bricolage intellectuel qui est le mien et auquel je tiens par rapport aux universitaires, je me défends en disant que l'aviation n'a pas été inventée à l'université, mais par des bricoleurs le dimanche en province avec un homme courageux ou un peu vantard, et puis un homme pour payer, un homme mécanicien. On n'a rien inventé à l'université. Ce sont les bricoleurs qui touchent à tout. Qui font quelque chose. Moi, je n'ai pas de prétention dans la pensée. Je ne pense pas, je joue. Je joue et je suis heureux de jouer avec une phrase de Sartre, une phrase de Rimbaud, et d'aller jusqu'à la conséquence limite de ce que ça veut dire. Nous sommes tous égaux pour un chrétien. Et logiquement, j'extrapole, et que m'importe le savoir que je n'ai pas, les trous dans ma culture. Je veux dire, je me sers de ce que j'ai. Comme le bricoleur qui se sert de ce dont il dispose dans son atelier.
On ne peut échapper à l'histoire qui ignore son fatum. Pourtant, chaque jour nous apparaît, la liberté se mobilise. Non, je me suis trompée. La liberté se mobilise, mais c'est la nuit que l'amour se jeûne ou s'étreint. Éclaire-moi, devenant ces transparents dont parlait Breton. As-tu conscience de tout ce qui peut dépendre de nous? Je t'embrasse, mais l'amour que j'ai pour toi, tu le verras en exorcisant avec moi la mort et la folie où nous avons vécu. Tendresse, Gabriel.
J'ai dans les mains, là, André Huguetto, c'est un tableau que Christian Guézricor a fait et qu'il vous a donné.
Oui. Écoutez, c'est un tableau qu'il m'a donné, effectivement, quelques jours après une conversation que nous avions eue au sujet du très beau poème de Baudelaire, La mort des amants. Vous savez, un soir fait de rose et de bleu mystique, nous échangerons un éclair unique comme un long sanglot tout chargé d'adieux. Et plus tard, un ange, entr'ouvrant les portes, viendra ranimer fidèle et joyeux les miroirs ternis et les flammes mortes. Bon, je ne dis pas que ce tableau a été fait à la suite de notre conversation sur Baudelaire, mais enfin, il s'inscrivait, je dirais, dans la lignée de nos échanges. Et je trouve que ce petit tableau est très représentatif de sa manière. Il y a d'abord ses couleurs, après tout. Les couleurs de son propre mysticisme, je dirais, ce mélange de rose, de bleu, de vert, le vert de l'islam, vous savez qu'il aimait bien rassembler à travers un certain nombre de symboles les trois religions du livre. Il y a aussi le graphisme, l'écriture, le dessin, c'est-à-dire que ce petit tableau rassemble effectivement toutes ces manières d'une certaine façon.
Il y a une croix à droite.
Oui, une croix à droite, mais cette croix a un sens qu'il faut sans doute préciser. C'est une croix des éléments, vous voyez. La croix des éléments, au bout de laquelle sont figurent des cœurs, ce sont les éléments en amour, je dirais, qui se rassemblent. Ce n'est pas une croix sacrificielle, enfin je ne pense pas que ce soit la croix de la passion. C'est la croix qui rassemble les quatre éléments, si on veut, mais aussi les quatre forces, je dirais, qui font le monde, ou qui le défend, enfin je ne sais pas. Voilà, et puis vous avez sur le centre d'ailleurs, vous avez un bouquet. À droite de ce bouquet, une sorte de représentation de la Vierge Marie. Et à gauche, l'ange Gabriel, de toutes ses annonciations. Et ensuite, vous avez un message qui est crypté, puisqu'il est écrit à l'envers. Écriture dans un miroir. Alors, si vous n'avez pas de miroir, écoutez, je m'en souvenais, je ne le sais plus. Mais c'est une prière à Marie. Voilà.
C'est un tableau qui est assez gai.
Oui,
parce que ça, c'est quelque chose qu'on qu'on n'imagine pas très bien de Christian Gabriel Guèze-Ricord, c'est que c'était un homme gay.
Ah, absolument. Il était plein d'humour. Et moi, j'ai été très sensible à l'humour de Christian, parce que cet humour était, je pense, une représentation de sa tolérance. Lorsqu'il nous entraînait sur le chemin escarpé de sa propre recherche, de son mysticisme, il ne nous en voulait pas de ne pas le suivre, de ne pas le croire tout à fait. Alors, quand on finissait par afficher un air un peu dubitatif, eh bien, son ton devenait non pas moqueur, mais tout à fait humoriste. Enfin, c'était celui de l'humoriste qui comprenait très bien que l'on reste un petit peu en arrière de sa quête, vous voyez. Et c'est ce qui me touchait chez lui, cette bonté perpétuelle, cette accommodation constante au registre d'autrui, à l'amplitude de pensée de l'autre, vous voyez. Il s'adaptait au fond à son interlocuteur. Et bref, c'est quelqu'un qu'on pouvait toujours aborder par l'angle, je dirais, du sourire.
1979. Quand j'étais sur la fenêtre à Noël 1977, je suis restée sur le rebord, partagée entre rentrer et sortir. J'écoutais la radio et attendais le père qui m'aurait dit « jette-toi », mais qu'il ne l'a jamais dit. Ou le père qui m'aurait dit « rentre » et il ne l'a pas dit non plus. Le fou n'est pas celui qui hésite entre être ou ne pas être. Pour lui, c'est ni être, ni ne pas être, ni se tuer, ni ne pas se tuer. Ce n'est pas seulement le conflit existentiel comme l'ont exprimé Pavès ou Hemingway, Sartre ou Camus. Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue ou vaut-il mieux se tuer ? C'est là un acte lucide. Chez le schizophrène, enfin chez le malade, c'est « je ne veux pas me tuer et je ne veux pas non plus ne pas me tuer ». Je ne veux pas me tuer parce que je veux leur dire quelque chose. Mais je tiens à la vie. Je tiens à la vie, mais il faut que je meure pour vivre. Ce texte qui est extrait du Chou au Butler, hein, le livre que Christian Guèze et Jean-Pierre Coudray, son psychiatre, ont écrit ensemble, ce texte est de 1979, l'année précisément où vous, Titus Milèche, vous avez connu Christian Guèze-Ricord à la Timone.
Oui, j'ai connu. En fait, il était hospitalisé. Ou disons, moi, je suis arrivé dans ce service de psychiatrie et un patient, en fait, je faisais connaissance à différents patients. Et un patient qui vient vers moi, il me dit, pour moi, c'est assez simple, je sais ce que j'ai fait des bouffées délirantes, ou je ne sais plus exactement quel diagnostic il s'est donné. De toute manière, j'ai tel ou tel médicament, donnez-moi le temps de ça. Et en plus, j'ai un psychiatre formidable. D'ailleurs, nous écrivons un livre ensemble. Alors, je me suis dit, ça, c'est un patient qui c'est très bien. Et donc, qui connaît ses troubles, j'ai suivi ses instructions et en plus je me dis, tiens, ce psychiatre, enfin un psychiatre, c'est intéressant. Et effectivement, une sorte de suite logique, j'ai fait connaissance du docteur Coudray et nous avons travaillé, en fait j'ai assisté un peu à ses groupes de psychodrames, et nous sommes liés d'amitié et donc avec la succession de cabinet aussi, j'ai pris la succession des soins, et donc aussi les soins de Christian Gabriel Guèze-Ricord.
Mais il était capable de parler de ses bouffées délirantes, de distancier assez pour savoir ce qu'il vivait dans ses périodes de crise.
Et disons, à l'époque où je l'ai connu, en fait, si on veut, il était guéri dans le sens qu'il maîtrisait à peu près sa fragilité, son monde imaginaire, et qu'il pouvait plus ou moins le diriger et l'utiliser et parallèlement avoir des relations quand même humaines, de terre à terre.
Oui, parce que la difficulté avec lui, c'est quand même que cette maladie, c'était une initiation pour lui, il s'en servait. En fait, elle servait sa poésie.
Oui.
Donc,
c'est inséparable, à mon avis.
Oui.
C'est, comme il dit, l'expérience de la nuit... Qu'est-ce que c'est la nuit, quoi ? Moi, je pense que c'est la nuit du temps. C'est là où toute vie humaine commence, en fait, déjà dans l'histoire et dans l'histoire de chaque individu. Et c'est là où nous sommes pénétrés et pénétrables de, de la nuit du temps familial. Et nous sommes, comme il dit souvent, il parle du labyrinthe maternel, structure matriarcale.
Oui.
Et donc, c'est là où il y a en fait une énorme source d'angoisse, une énorme source de créativité. La personne la plus importante, l'être humain, c'est la mère. Ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et donc, c'est valable pour Christian Guest aussi.
Tout commence et tout finira par une histoire d'amour. Que Lucifer, la figure de Lucifer, qui est l'ange de la couronne, c'est-à-dire l'ange de la cité qui couronne le ciel et la terre, l'ange de la couronne était jaloux du Dieu jaloux, était jaloux de la Vierge inaccessible, était amoureux en quelque sorte. Je crois qu'en tant que poète, je peux le dire, en tant que théologien, je ne pourrais pas le dire. Mais l'ange de la couronne était amoureux. Il était amoureux, et de qui pouvait-il être amoureux sinon de la Vierge inaccessible, de l'épouse de la création elle-même. Il était amoureux de la création, c'est-à-dire de la Vierge, d'où sa chute. Mais éternellement, il est aimé. Éternellement, par la communion, il est aimé. Éternellement, il est rappelé à l'amour de Dieu. Et Dieu l'aimera jusqu'à la fin. Et quel que soit son refus de l'amour divin, l'ange de la couronne, Lucifer, est aimé. Nous sommes condamnés à aimer celle qui nous est promise. C'est l'amour humain entre l'homme et la femme qui est appelé à une transfiguration lui aussi. En cela, je me distingue de l'image traditionnelle du catholicisme. Pourtant, nous sommes appelés par la messe, non seulement à la croix, qui est une étape initiatique, mais nous sommes appelés à un banquet céleste et à une noce mystique. Et du reste, dans les peintures orthodoxes, on peint les saints à l'image, à la ressemblance du Christ. De la même façon que les enfants ressemblent à leurs parents, nous ressemblerons tous en chair et en os, et vous-même, au Christ. Nous aurons son visage comme lieu de notre ressemblance. Nous lui ressemblerons en chair et en os, et par la communion, nous communions aussi sa chair et ses os. Nous communions à la lettre et dans tous les sens, comme dirait Rimbaud, jusqu'à notre ressemblance parfaite avec lui. Nous sommes appelés à un banquet nuptial. Donc l'amour humain sera transcendé. Et je crois que les saints eux-mêmes se marieront entre eux, en quelque sorte. Ils seront un par le Saint-Esprit. Et ça, c'est le mystère du Saint-Esprit, le mystère de cet amant éternel qui vit une histoire d'amour avec chacun de nous, qui est perpétuellement amoureux de nous. De la même façon qu'un homme peut être amoureux d'une femme, il faut imaginer le Saint-Esprit amoureux de nous et souffrant des chagrins d'amour pour notre âme. Et c'est son mystère à lui. Du reste, dans les figures alchimiques, il y a un lit de noces. Nous sommes promis à une noce.
Il avait besoin d'une chambre carrée d'hôpital pour...
Oui. Oui, le besoin vis-à-vis de la folie, c'est bien sûr une question très, très difficile. Christian a éprouvé beaucoup, beaucoup de souffrance dans ses séjours psychiatriques. C'est quelque chose que je crois qui doit être perçu et senti. On n'est pas un poète frappé de folie impunément, et il a passé des moments difficiles, douloureux et parfois effrayants dans les chambres d'hôpital. Il a été soumis aux électrochocs, il a été à l'hôpital à Strasbourg, à Rome, à la Timone. Donc il a vécu des situations d'hôpital extrêmement douloureuses. Ce qui est particulier, certainement, c'est que dans l'espace de l'hôpital, la parole poétique, à son tour, transgressait, je ne dis pas tout le temps, car à des moments, les médicaments et les piqûres avaient raison finalement de sa parole, mais elle réussissait à être contagieuse. Et il y a plein de séquences de sa vie où il a rencontré des gens à l'hôpital, il troublait l'ordre de l'hôpital. J'ai encore des témoignages à Marseille, puisqu'il a fait quand même beaucoup de séjours à l'hôpital à Marseille, mais de de génération de psychiatres qui, chaque fois que je nomme Christian comme ça quand je rencontre des gens, nous racontent la façon dont il animait la vie à l'hôpital. Et donc ça a bien sûr été un sujet fort intéressant, comme disent les psychiatres. Et de toute façon, il déstabilisait l'ordre psychiatrique. Et il ne le faisait pas, je voudrais ajouter quelque chose, par une démence qui cherchait à détruire. Je crois qu'un aspect qui m'a toujours touché chez Christian, c'est que sa folie, si on peut appeler ça ainsi, était celle du fada. Il aimait bien dire qu'il était, les Provençaux comprennent cela, des gens qui sont habités par les faits. Alors quand vous êtes habité par les faits, ce n'est pas pour détruire le voisin. C'est que vous êtes en situation d'émerveillement et de traverser des mondes à l'intérieur de vous-même. Donc s'il y a eu une destruction, c'est à l'intérieur de lui-même.
Peut-être ai-je échangé avec Guézricor une vingtaine de lettres de part et d'autre, et je devais être un peu son anneau d'islam. Je devais être, c'était, on en parlera, oui, l'homme des anneaux. J'étais peut-être l'anneau dont il avait besoin pour se conjoindre à l'islam. Et les anneaux, n'est-ce pas ? Les anneaux sont à la fois ceux qui lient, mais ils sont aussi à la fois ceux qui cernent. Et donc, le mot anneau, qu'il utilise beaucoup dans sa poésie, me paraît être un de ses mots les plus fortement chargés de sens réel et symbolique du vocabulaire spécifique de Guézricor. Et c'est un homme qui est obsédé par l'anneau. Il veut, il sent, comme Claudel, qu'il habite l'extérieur d'un anneau. Vous connaissez la phrase de Claudel, « J'habite l'extérieur d'un anneau ». C'est le fait des exilés qui veulent retrouver le centre des choses. Mais se risquant de ce côté-là, c'est si l'anneau se referme, ce qui est arrivé pour Nerval, ce qui est arrivé pour Artaud, ce qui est arrivé pour Guézricor, évidemment, on devient l'otage de la quête dangereuse, périlleuse qu'on avait entreprise. Et alors l'issue est de quel côté ?
J'ai toujours au fond de moi une interrogation sur le rapport, peut-être banal, mais passionnant, entre la sagesse et la folie. Quel est le versant qui travaille la poésie ? Il y a d'autres gens avant Christian qui nous ont mis en jeu vis-à-vis de cela, mais Christian m'a réellement, en tant qu'ami, posé cette question-là dans sa propre vie personnelle.
Vous avez assisté à des moments d'écriture. Alors, est-ce que ça sortait comme ça ? C'était est-ce qu'on a l'impression d'un rythme qui sort d'une effluve incessante ?
Alors, j'ai presque envie de commencer par la fin. Les deux dernières fois que j'ai vu Christian, j'ai écrit sous sa dictée. Et j'en ai un souvenir troublant. Il était agité et en fait, il m'a demandé de prendre un papier et je me suis mis à écrire. Et au fond, il me dictait. Et je ne savais pas très bien ce que je faisais. Ce que je sais, c'est qu'il ne voulait pas que je m'arrête, au fond. Et La qualité de ce qui a été écrit, d'ailleurs, je crois que ça a plus ou moins disparu. Mais ce qui était important, c'est qu'au fond, il voulait que l'autre écrive sous la dictée de ce qu'il avait à dire. Et c'était ce type d'expérience qui lui importait. On est près, bien sûr, de l'écriture oraculaire. Il avait une parole à transmettre.
Il était traversé.
Traversé. Et là, au fond, le travail d'écriture n'existait pas du tout. Donc à la fin de sa vie, sur cet acte-là que j'ai rencontré, ce n'était absolument pas la question du travail d'écriture qui importait. Puisque ce qui importait, c'était de faire passer quelque chose. Quitte à ce que dans cette parole-là, il y ait du brouillage. Il y avait du brouillage, il y avait des mots qui ne devaient sans doute pas venir. Mais ce n'était pas cela qui était important. C'est qu'il savait que quelque chose pouvait se manifester à travers cette parole. Donc ça, c'est les expériences que j'ai eues à la fin. Dans d'autres moments, avec sa... quand on allait le voir... il aimait bien parler du travail d'écriture et ça m'est arrivé d'avoir des manuscrits de Maison Dieu, par exemple, premier manuscrit de Maison Dieu avec des ratures. Il travaillait, il retravaillait volontiers ses textes pour qu'ils arrivent à un équilibre, j'allais dire d'ordre géométrique. Ça fait partie des contradictions. Peut-être que ce n'est pas le mot, mais de l'équilibre instable de Christian. C'était que face à la surabondance de sa parole, inarrêtable, qui était traversée parfois par des hoquets, par des défaillances, il lui fallait une structure géométrique pour ordonner son existence. Et le tableau que vous avez ici, par exemple, donc un carré avec d'autres formes géométriques à l'intérieur, et des scènes qui sont figurées sont un bon exemple de ce que Christian pouvait réaliser. Car là, la géométrie permettait d'ordonner cette part de surabondance qu'il avait par ailleurs. Et on retrouve cela dans son écriture. Il classait son œuvre en différents genres. Et c'était extraordinairement réfléchi et structuré. Peut-être pas dès le départ, mais assez rapidement, on a vu cet élément de structuration, d'ordonnancement. Il aimait beaucoup les métaphores d'architecte. Hein. Il était très versé pour des raisons d'origine familiale. Son père était architecte. Et puis parce que l'architecture permet d'ordonner finalement sa propre personnalité. Et là où justement, on sent bien qu'il y a des éclats et des risques de dispersion intérieure. Et on peut retrouver ça dans ses livres avec les trois grands ordres de son écriture. L'un qui est la parole, qui est celle qu'on retrouve dans Maison Dieu. L'autre, celle des tercets. Et puis une troisième qui équilibre les textes en prose avec quelques séquences poétiques. Il avait trouvé là une sorte d'équilibre de trois pôles d'écriture. Et donc à chaque fois qu'une écriture venait, elle allait se placer, s'organiser dans un de ces espaces-là.
Qu'est-ce que vous dites qu'on apprend des patients, oui, de Christian Guèze, vous avez appris quoi? Qu'est-ce qui vous, y a quelque chose qui vous a apporté en particulier? Vous vous souvenez de lui, là? Il est resté bien présent?
Oui, je me souviens... Oui, je me souviens très bien de lui. En fait, on peut dire presque, en fait, un souvenir global, c'est son humour, en fait. Il savait se moquer de lui-même, et en plus, sa générosité... Il faisait parfois appel à moi le soir ou la nuit, parfois j'allais le voir chez lui, et presque jamais je partais sans un texte, sans un petit tableau, et c'était comme ça, quoi, ça. Et bien sûr, il y a des moments où il y avait une grande ouverture, il y avait cet humour, et il y avait un peu un questionnement aussi, qui tu es, toi, l'autre, le psy, ou toi, l'homme. Et par moments, effectivement, il y avait besoin de faire partager son monde, et parfois ce monde pouvait être un peu inaccessible. En fait, ce qui était rigolo aussi, bien sûr, c'était plutôt l'inverse, en fait, que moi, pour lui, il me l'a raconté plus tard. J'étais un signe aussi, en fait. Et il a, par le nom de famille, en fait, les consonnes, il y a entre Milesh et Miloche, il parle d'un poète, je ne sais plus de quelle provenance. En même temps, il me semble d'avoir l'entendu dire aussi que c'était en même temps un cordonnier, et c'est là qu'il faisait le rapprochement entre moi et Miloche, un cordonnier qui savait faire des lacets qui étaient aussi longs que pouvoir relier la terre et le ciel. Et donc, ça, c'était un compliment pour moi. J'ai bien retenu. En fait, il me prêtait cette capacité-là de pouvoir relier l'irréliable, en fait, un peu.
Vous étiez un ange.
Oui, oui, j'étais un messager aussi. Et j'accepte bien aussi cette identité. Bon, bien sûr, on ne peut pas faire un travail scientifique là-dessus, mais c'est légitime. C'est les messagers, il y en a partout. Il y a des personnes dont l'existence se situe surtout là. En fait, quand il dit qu'il ne peut ni mourir ni vivre, il dit aussi dans Le Faux Bateleur, quelque chose que j'ai beaucoup retenu et que je garde toujours en mémoire, le pourpre, la couleur du pourpre, c'est une couleur qui n'existe pas, c'est-à-dire une fréquence qui n'existe pas. C'est